tapis.
Dans cette édition, nous parlerons de budget, de violence sur mineurs, d'attaque de requins et de sport pour terminer évidemment. Le journal de la mi-journée de Radio 1 et Thierry FM, c'est avec Valdemar Delage. Bonjour Valdemar.
Bonjour Damien, bonjour à toutes et à tous.
800 pages, 170 milliards de francs, le projet du budget 2025 du pays est sur le bureau de l'Assemblée.
Et oui, c'est un peu comme les INA ou les Litchi, tous les ans, à la même période, les documents budgétaires atterrissent en masse sur le bureau des élus de Tarahoy. Une saison un peu tardive hein, cette année, car ils sont arrivés vendredi après-midi, quelques heures avant la deadline réglementaire. Et depuis, tout le monde a les yeux rivés sur ce budget primitif et sur son déluge de chiffres. 170 milliards de francs de mouvement au total, 3 milliards 600 millions de francs de recettes supplémentaires et puis il y a ces 78 milliards, c'est le total des charges structurelles obligatoires que le pays doit intégrer dans ses dépenses. On parle des charges de personnel, des transferts aux autres institutions ou encore des remboursements de la dette, des postes pour lesquels le gouvernement a peu de marge de manœuvre et qui pèsent de plus en plus lourd. Les explications de Charlie René.
Oui, rappelez-vous, tout le monde s'inquiétait fin 2019 quand ces charges obligatoires commençaient à friser les 50% des dépenses de fonctionnement. Et bien 5 ans plus tard, elles en constituent plus de 62%. Près des 2/3 du budget sont utilisés avant même la moindre décision. De l'aveu même du gouvernement, il devient difficile de financer correctement les politiques sectorielles. Le problème, c'est que le seul point dans ces charges où l'exécutif a une capacité d'intervention, c'est la masse salariale. Mouette Brotherson avait fait de sa maîtrise un objectif phare et son équipe rappelle dans ce budget avoir pris des mesures présentées comme draconiennes. Et pourtant, cette année encore, les charges de personnel sont en augmentation, plus 757 millions par rapport au BP 2024, une trentaine de postes créés l'année prochaine. Le gouvernement n'est pas exemplaire en la matière, avec 86 millions de francs d'emplois ministériels en plus, et la présidence l'est encore moins. L'équipe personnelle de Mouette et Brotherson, à la faveur de compétences élargies au dernier remaniement, passe de 7 à 18 personnes.
Alors dans ces charges structurelles, il y a aussi les transferts vers les communes qui sont en augmentation mécanique hein, grâce aux bons résultats fiscaux. Il y a aussi le budget accordé à l'Assemblée en légère hausse à 2,5 milliards, ou celui du CESEC qui ne bouge pas d'un poil à 98 millions de francs. Mais il y a surtout le poids de la dette, Charlie.
Et là aussi, il n'a jamais été aussi important. En 2025, le pays va devoir rembourser 17,5 milliards de francs à ses créanciers, en grande partie pour commencer à épurer les deux grands PGE contractés par l'équipe Fritsch pour amortir le choc du Covid. Le gouvernement Brotherson a bien remboursé en avance quelques 6 milliards de francs il y a quelques mois, mais ça ne suffit pas. Après un pic à 156 milliards fin 2022, la dette cumulée atteindra toujours les 145 milliards en fin d'année prochaine. Pas de risque immédiat pour la collectivité, rassure le ministère des Finances, qui rappelle que la Polynésie est en était à 20% de son PIB contre 110 du côté de l'État. Reste que ces annuités limitent beaucoup les marges de manœuvre du gouvernement.
Et pour contenir ces annuités de la dette, l'exécutif explique qu'il pourrait allonger la durée de ses prêts et faire des emprunts plus ciblés. Ce projet de budget doit être examiné en commission puis adopté en séance avant le 31 décembre. On en reparlera dans deux prochaines éditions.
On vous parle toujours de politique. Plus de 200 élus polynésiens s'apprêtent à participer au congrès des maires.
Et oui, ce rendez-vous national des élus de proximité débute la nuit prochaine à Paris. Pour l'occasion, 220 élus, en tout cas c'est le nombre de la délégation, ont fait le déplacement pour 4 jours de forum et de débat. Le SPCF précise ce matin que plusieurs sujets y seront abordés avec les partenaires de métropole, tels que l'évolution du code général des collectivités territoriales, la situation du fonds intercommunal de péréquation ou encore le partage de compétences avec le pays. Ce lundi, les élus ultramarins ont participé en amont à une rencontre avec leurs homologues d'outre-mer, l'occasion d'évoquer les crises sociales ou l'augmentation du coût de la vie.
Au Fénois, plus de 2000 mineurs sont suivis chaque année pour des manquements, des carences ou des violences.
Un chiffre qui est en hausse sur les 15 dernières années et qui est aujourd'hui supérieur à celui de l'Hexagone. Une situation que souhaite voir évoluer l'association polyvalente d'action socio-judiciaire, l'APAJ, qui a réuni cette semaine les professionnels de la justice, les services sociaux et les personnels de santé lors des 4e assises de l'aide aux victimes et de la prévention de la délinquance. Objectif, permettre aux acteurs d'échanger sur cette problématique avec 7 experts venus de métropole pour tirer profit des outils dont ils disposent. D'après Cécile Moreau, la directrice de la page, les cas de violence sont aujourd'hui plus nombreux, alors pas forcément parce qu'elles ont augmenté, mais peut-être aussi parce qu'il y a davantage de prévention, ce qui permet de les mettre en lumière. Alors au-delà des chiffres, pour la page, l'important c'est surtout de réussir à améliorer la prise en charge des victimes mineures, mais aussi celle des auteurs qui n'ont pas forcément la volonté de maltraiter. Et il faut surtout réussir à faire en sorte que les faits ne se reproduisent pas.
Il y a peu de mineurs qui répètent le schéma. En revanche, les auteurs ont souvent été eux-mêmes victimes dans leur enfance. Et c'est important de prendre les faits dans le sens inverse, parce que 80 à 90% des mineurs ne vont pas devenir des auteurs, surtout s'ils sont pris en charge, s'ils sont accompagnés, s'ils peuvent bénéficier d'un soutien, d'une thérapie, de l'appui de leur famille aussi. Et malheureusement, une des grosses problématiques aujourd'hui, c'est que trop souvent, les parents ne sont pas soutenants vis-à-vis de leur enfant victime.
Et selon la directrice, la situation locale est d'autant plus particulière que les jeunes mineurs réclament souvent leurs parents, peu importe ce qui s'est passé dans le cercle familial.
Dans la plupart des cas, les mineurs redemandent l'attention, l'affection des parents. Ils recherchent ça, même arrivé à l'âge adulte. En tout cas, ils ont besoin, et encore plus, je pense, dans la société polynésienne, on a besoin de faire partie d'une famille, vivre en collectivité, pouvoir se retrouver le dimanche en famille, faire partie d'un tout. C'est très important, peut-être plus encore que dans un monde plus occidental, comme en France métropolitaine, ou aux États-Unis, ou en Europe.
Voilà, Cécile Moreau, directrice de la page au micro de Vaïtiaré Pérère. A noter que ce jeudi à 17h30 à l'auditorium, Véronique Béchu, commandant de police et chef du pôle stratégie de l'office mineur de la direction de la police judiciaire, ainsi que la capitaine de police Cathy Steele présenteront une conférence sur le thème « Violence sexuelle à l'égard des mineurs, état de la menace et traitement judiciaire ». Ça se passe à 17h30 donc.
Un mot sur cet avis de travaux sur la RDO.
Des travaux qui vont durer 4 semaines et qui se concentreront sur la nuit entre 19h30 et 5h du matin. Il s'agit de rénover les voies lentes de la route, celles qui se trouvent le plus à gauche de la chaussée. Et pour ça, le ministère des Grands Travaux fait fermer certaines sorties et certaines portions. Dans le sens Papeete-Punaouia, c'est le tronçon entre le mont de Pourey et la bretelle de l'aéroport qui sont concernés. Il sera entièrement fermé la nuit à partir de ce soir et ce jusqu'au 6 décembre. Dans l'autre sens, le chantier ne commencera que lundi prochain, principalement dans la descente de la RDO vers Papeete. La sortie de l'Uranie sera fermée aux automobilistes jusqu'au 13 décembre. Bien entendu, il conviendra d'être très prudent dans vos trajets de nuit ces prochaines semaines.
On s'intéresse maintenant à une théorie qui permettrait de mieux comprendre les attaques de requins.
Oui, c'est l'œuvre du chercheur Éric Clua, basé au Criob de Moréa. Ce vétérinaire spécialiste des requins soutient depuis des années qu'il existe des requins à problème, des sortes de squales tueurs en série qui ont intégré l'humain dans leur alimentation, ce qui les conduit à s'en prendre aux hommes. Une thèse controversée parmi les scientifiques, mais Éric Clua, qui en a fait une quête personnelle, annonce être parvenu à rassembler des preuves. Il a publié un article dans une revue spécialisée, un papier co-signé par 11 chercheurs du monde entier. Pendant 10 ans, il a sillonné les mers. Il a finalement trouvé 3 premiers cas d'études qu'il présente comme preuve. D'abord en mer Rouge, où une femelle parata a été reconnue dans plusieurs attaques. Puis au Costa Rica, sur l'île Cocos, où un requin-tigre a été impliqué dans plusieurs attaques similaires sur des plongeurs. Et enfin aux Caraïbes, grâce à l'ADN, écoutez.
Et la troisième étape, ça a été aux opportunités. J'ai de suite, moi, été impliqué dans la gestion d'une morsure fatale sur une nageuse dans l'île de Saint-Martin, dans la Caraïbe, et j'ai pu, pour la première fois, mettre en œuvre ce que je préconise depuis maintenant 10 ans, c'est-à-dire ce qu'on appelle le swabbing, hein, c'est-à-dire l'écouvillonnage sur les plaies de la victime, qui nous a permis ensuite de démontrer via la génétique, qui est encore plus imparable que la photo-identification, sur le fait que le même requin avait mordu à 2 reprises, à un mois d'intervalle et à 80 km de distance.
Voilà, l'utilisation de l'ADN comme ce cas à Saint-Martin dans les Caraïbes est donc un procédé imparable pour Éric Clua qui souhaiterait le répliquer et le systématiser partout ailleurs pour alimenter une base de données de requins mordeurs.
Actuellement, on a une déficience au niveau du traitement médical des victimes qui fait qu'on reste sur des notions très médicales, hein, de sauver la victime, mais on ne s'intéresse pas, si tu veux, à l'agresseur. Alors qu'en humaine, tu as les deux, si tu veux, tu as la police scientifique et tu as les médecins qui travaillent de main dans la main. C'est-à-dire que quand il y a un viol ou un meurtre, tu vas avoir des médecins qui vont essayer de sauver la victime si elle n'est pas encore morte, mais tu vas en même temps avoir la police scientifique qui va intervenir ou les médecins pour faire un écouvillonnage pour trouver, avoir l'ADN du violeur. Alors que sur les animaux, sur les requins, on ne le fait pas.
Éric Clua aimerait donc mettre en place ce système en Polynésie française. Il cite par exemple la morsure d'un parata sur une nageuse à Moréa au cours d'une sortie baleine et cite celle aussi du requin-tigre qui avait arraché la jambe d'un ouvrier perlicole. C'était il y a 2 ans à Mangareva.
Tu as eu 2 morsures de prédation dans les 2 dernières années et potentiellement tu as 2 individus de problème qui se baladent. Donc maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on fait la politique de l'autruche ou est-ce qu'on fait comme, comme le suggère Éric Pua, on met en place un système à la fois discret et efficace, si tu veux, de base de données. Je te dis, moi je propose de traiter ça comme le terrorisme.
Voilà, Éric Pua qui estime donc qu'identifier les requins problèmes permettrait de mieux concentrer les campagnes de régulation en se focalisant sur des individus réellement dangereux plutôt que de tuer aveuglément, dit-il, des dizaines de requins après chaque attaque dans l'optique de faire baisser le risque en réduisant leur population. Ce qui n'a jamais marché, rappelle le chercheur. On cite notamment La Réunion ou la Nouvelle-Calédonie.
On passe au sport, Val-de-Marne, avec cet appel un brin urgent pour les organisateurs d'événements.
Un appel lancé par l'IJSPF qui récolte tous les ans pour le ministère des Sports les demandes de co-organisation de grandes manifestations sportives et de jeunesse. Il y en avait une soixantaine cette année dans toutes les disciplines et dans tout le pays, et toutes les compétitions et rassemblements qui intègrent cette liste des grands événements ont le droit à d'importantes facilités d'organisation. On parle bien sûr d'une participation financière du pays, elle peut atteindre plus de la moitié du coût total. On parle aussi de démarches plus facile pour réserver des sites, faire fermer des routes ou investir des lieux publics. On parle même de location de matériel comme des gradins, tonnels ou des équipements sportifs du pays prêtés à moindre coût. Alors pour accéder à tout ça, il faut obtenir le sésame d'une commission spécialisée qui doit se réunir début septembre. Mais avant ça, il faut remplir un dossier disponible sur la page de l'ISPF. La date limite, c'est ce vendredi 22 novembre et aux dernières nouvelles, l'Institut n'avait reçu que deux dossiers complets, d'où ce rappel urgent aux associations, fédérations et autres clubs qui voudraient avoir leur place dans le calendrier des grandes manifestations. L'IJSPF peut aussi assister les organisateurs dans la constitution du dossier. En revanche, plus aucun ne sera accepté à partir de ce week-end.
Du surf pour terminer avec cette vague de Tahitiens à Nazaré.
Le spot portugais connu pour son swell monumental chaque hiver a vu débarquer beaucoup de Polynésiens ces derniers jours. Le chargeur Tikanui Smith y est arrivé avec une équipe. Il doit y rester une bonne partie de la saison. Il avait fait une pause dans sa carrière en 2023. On l'écoute.
Quand tu rentres dans ce milieu de sponsoring, moi ça faisait 12 ans que j'étais dedans. À fond. Vers la fin des dernières années, il y a beaucoup de choses que j'ai fait en oubliant vraiment le plaisir, plus par devoir, car ils voulaient que j'aille là-bas ou que je fasse ci ou que je dise ça ou quoi. Et moi, vers la fin, je suivais ce mood, mais quand j'ai réalisé un peu tout ça après le Eddie Echo, je me suis dit, ok, je veux vraiment penser à moi, faire les choses que je veux, revenir un peu dans la vraie vie. Sachant que, bien sûr, j'avais envie de toujours chasser les grosses vagues, mais c'était, je ne pouvais plus. Mes sponsors ne suivaient plus.
Voilà, Tikanui Smith, pour qui une rencontre a tout changé. Il nous raconte son histoire, celle avec Vincent Kardasic, un réalisateur et chef opérateur primé et réputé dans le milieu de la glisse. Il l'a encouragé à revenir à Nazaré avec d'autres défis. Tikanui Smith est